Chapitre 43. Le coup de foudre qui avait frappé M. de Carquebus sur le chemin de Fromentelle n'avait pas épargné le marquis. Bientôt, Clémence avait eu la satisfaction de voir ses efforts récompensés par le succès. Le marquis se mourait de la peur de l'enfer. Il ne dormait plus, ou tout au moins, son sommeil était troublé par des affres terribles. Souvent, au milieu de la nuit, il agitait sa sonnette d'une main affolée, et en entrant dans sa chambre, elle le trouvait assis sur son lit, pâle, les yeux saillants, le visage baigné de sueur, les sourcils hérissés, les lèvres tremblantes, les joues creusées. Elle accourait vers lui, mais alors il restait souvent pendant plusieurs minutes sans pouvoir parler, les sons qui s'échappaient de sa gorge contractée étaient rauques et indistincts. Il la regardait en roulant les yeux d'un côté à l'autre. Ses mains s'ouvraient et se fermaient alternativement, et il jetait ses bras tremblants en avant, comme pour repousser une vision effroyable. Une nuit qu'il avait sonné plus fortement que de coutume, elle se hâta d'accourir et elle le trouva dans un état pitoyable. « Damné ! » s'écria-t-il dès qu'il entendit. « L'enfer ! L'enfer !» Elle s'empressa d'allumer plusieurs bougies et, peu à peu, la frayeur se dissipa à mesure que la chambre s'éclaira. Cet accès de terreur fut suivi d'une prostration de force. Il resta assez longtemps sans parler, haletant. Elle était penchée sur lui, elle vit que ses yeux s'emplissaient de larmes. « Quelle vision ! » s'écria-t-il d'une voix entrecoupée. « Il m'a été impossible d'y échapper. Mais à quoi bon le tenter, d'ailleurs ? La réalité n'est pas moins épouvantable que le rêve. « Eh bien, soyons damnés ensemble !» dit-elle en se jetant dans ses bras. « Ne soyons jamais séparés dans cette vie ni dans l'autre. » Mais après un long intervalle de silence, elle revint sur ce mouvement d'abandon. « Non, non, s'écria-t-elle, il ne faut pas que je vous entraîne avec moi. Il ne faut pas qu'une pensée de tendresse égoïste nous réunisse. Il faut que vous soyez sauvés. Et pourquoi ne le seriez-vous pas? Vous pouvez racheter vos fautes, moi je ne peux rien. Votre foi n'est pas moins vive que la mienne. » La vôtre agit, elle trouve cent occasions pour s'affirmer et manifester son ardeur. La mienne est inerte. En effet, depuis quelque temps, il n'avait pas laissé passer une journée sans la remplir par quelque acte de générosité. Il donnait des deux mains et sans qu'on lui demandât, s'ingéniant à trouver à qui donner, aux pauvres, aux églises, aux associations charitables. « Donner, dit-il, n'est pas la seule manière de manifester sa foi. » « Sans doute, mais c'en est une qui est des meilleures. » Il ne répondit rien, mais le lendemain matin, sans lui en parler, il envoya Valérie à Condé chercher une somme de 20 000 francs chez son notaire. Puis, quand il eut cette somme entre les mains, il la remit entre celles de Clémence. « Comme cela, dit-il, vous pourrez vous associer à moi, et selon votre désir, selon le mien, nous serons tous deux réunis. » « Il n'y a aucun mérite, répondit-elle tristement, à donner avec l'argent d'autrui. Je ne me priverai pas en vous imitant. Cet acte de générosité est à inscrire à votre compte et non au mien, et par là, il augmente encore la distance qui nous sépare. » « Mais que faire? Que voulez-vous ? » « Ah, je ne sais, et c'est là ce qui me désole. Tout sera inutile, je ne trouverai rien. » Si nous restons réunis dans cette vie, nous serons séparés dans l'autre. C'est affreux !» Le lendemain, cependant, elle crut avoir trouvé une solution. « J'ai eu une inspiration, lui dit-elle, et bien certainement, c'est Dieu qui, me prenant en pitié, me l'a envoyé. Désormais, je ne m'accorderai pas de repos que je ne vous ai contraint à laisser toute votre fortune pour être employé dans une fondation pieuse. » Comme cela, Dieu qui voit tout saura quelle est ma part dans cette donation. Sans doute, je n'aurais pas donné, mais j'aurais fait donner et dans des circonstances qui me permettront d'affirmer encore mon désintéressement. Car pour que vous me laissiez cette fortune, je n'aurais qu'à vous la demander, n'est-ce pas? Mais je ne vous la demande point. Loin de là, je vous prie, je vous supplie de faire en sorte qu'elle passe tout entière dans de bonnes œuvres. Quelle satisfaction pour moi si je réussis dans cette tâche! Quelle espérance pour l'avenir! Quelle sécurité pour le présent! Plus d'inquiétude, plus d'angoisse! Moi aussi, j'aurais pu racheter ma faute, je serai de moitié dans cette expiation, et Dieu, dans sa justice, me réunira à vous. » Tout en parlant, elle l'examinait attentivement. Mais elle eut le dépit de constater qu'il accueillait cette idée avec plus de surprise que d'enthousiasme. « Ce que je vous dis paraît vous étonner, » continua-t-elle. « C'est cependant bien naturel. N'est-ce point par des fondations analogues à celles que je vous conseille que beaucoup de grands coupables ont racheté leurs fautes ? L'histoire nous fournirait des milliers d'exemples de ce genre. Je choisirai les plus remarquables pour vous les raconter, car je n'abandonne pas cette idée qui, au premier abord, vous déroute. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous deux que j'agis, et rien ne me découragera. » En effet, elle lui fit chaque jour une lecture empruntée à l'histoire et dans laquelle on voyait d'illustres coquins et de fameux criminels bâtir des églises ou enrichir des monastères. Il écoutait sans répondre, mais enfin il écoutait, et c'était déjà beaucoup. À la longue, ses lectures devaient produire un effet favorable au dessein qu'elle poursuivait. Et elle le devait d'autant mieux qu'elles étaient fortifiées par d'autres lectures d'un genre tout différent qui le troublaient profondément. Avant d'en venir aux leçons de l'histoire, Clémence s'était trouvée un moment assez embarrassée pour continuer son œuvre de conversion. Inventée chaque jour du nouveau pour entretenir le marquis dans les idées auxquelles elle avait su l'amener, était en effet une tâche difficile pour une personne qui, comme elle, n'avait point appris la science de la direction. Toujours tirée de son propre fond et n'avoir d'autres ressources que celles de l'inspiration ou de l'imagination, était pénible et souvent périlleux. Alors elle avait pensé à appeler la littérature dévote à son secours et, comme elle ne savait trop quels livres employer, elle s'était adressée à l'abbé Guillemite pour qu'il la guidât dans son choix. L'ayant été visitée pour le prier de garder Denise au couvent de Sainte-Rutilie jusqu'aux vacances, elle lui avait expliqué qu'elle avait l'espérance de ramener monsieur le marquis au pied des autels et elle lui avait demandé de quel livre elle pouvait s'aider pour mener sûrement cette œuvre à bien. Quoique dans ses explications, il n'eût pas été fait la moindre allusion à la question du testament, restée pendante entre eux, le curé d'Annebeau avait compris que cette question était en train de se décider dans le sens qu'il avait indiqué et il s'était empressé de donner, avec toute la bonne grâce dont il était capable, les indications qu'elle désirait. Non seulement il lui avait dicté, il n'aimait pas à laisser traîner ses autographes, la liste des bons livres qu'elle pouvait mettre sous les yeux du marquis, mais encore, il lui avait indiqué une suite d'exercices spirituels pour la direction méthodique d'une conscience repentante. Alors le temps du marquis s'était trouvé si rigoureusement employé qu'il n'avait plus eu dans toute sa journée une minute de liberté d'esprit. Les prières, les lectures pieuses, les oraisons, les dévotions à la Sainte Vierge, au Sacré-Cœur, au Saint de Sainte-Anne, les méditations, le chapelet, les litanies, les lectures historiques, tout cela se succédant et s'en mêlant, formait une sorte de chaîne sans fin qui l'enserrait des pieds à la tête et ne le laissait pas respirer depuis le matin jusqu'au soir, sans parler des rêves et des visions de la nuit qui l'étouffaient. Agissant d'après une inspiration divine, Clémence pouvait revenir tant qu'elle voulait à son conseil. C'était un devoir qu'elle accomplissait, un ordre supérieur auquel elle obéissait. Aussi ne s'en faisait-elle pas faute et à chaque instant, sous toutes les formes et de toutes les façons, trouvait-elle moyen de parler de cette fondation pieuse qui devait assurer leur réunion dans l'éternité. Cependant, il ne cédait pas et sa force de résistance, dans l'état où il était et sous les pressions qu'il avait à supporter, était vraiment extraordinaire. Au moment où elle le croyait réduit et prêt à subir enfin sa volonté, il se dégageait et c'était à recommencer. Mais cette force allait s'affaiblissant à mesure que le trouble de son esprit augmentait et que les terreurs de sa conscience croissaient. Enfin, l'heure parut propice à Clémence pour commencer l'exécution de la manœuvre décisive qui devait le réduire à une soumission complète. Un matin, elle entra dans sa chambre avec une figure bouleversée. « Ah, mon ami !» dit-elle d'une voix tremblante. Vous n'êtes pas le seul dont le sommeil soit enfiévré par d'épouvantables visions. Cette nuit, j'ai vu l'âme de ma mère. Elle m'a parlé, et savez-vous ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a répété les exhortations que me fait entendre chaque jour notre bon curé. Pour que nous soyons réunis dans l'éternité, il faut que je me sépare de vous sur cette terre. Il le faut, il le faut. N'est-ce pas horrible ? Si cela était horrible, c'était pour lui. Que deviendrait-il si elle le quittait ? Elle était tout son bonheur, toute sa joie. Si elle s'éloignait, il tombait dans le néant. C'était pour lui la mort. Il se fit si pressant, il se montra si désespéré, il sut si bien la supplier, qu'à la fin, elle se laissa toucher. « Eh bien, s'écria-t-elle, je ne partirai pas, je me sacrifierai puisqu'il le faut. À notre bon curé, à ma mère, à Dieu, je désobéirai, mais au moins je vous obéirai à vous, je vous rendrai heureux. » Et, laissant de côté les lectures pieuses ou historiques, les prières, les oraisons, les méditations, les dévotions, elle lui fit passer une journée comme il n'en avait pas eu depuis longtemps. Mais le lendemain, elle revint à lui plus effrayée encore qu'elle ne l'avait été la veille, elle ne se soutenait plus. Brusquement, elle le fit passer de la béatitude dans laquelle il s'était endormi à un réveil plein d'anxiété. « J'ai revu ma mère, » dit-elle, répondant à ses pressantes interrogations. Mais irritée cette fois, désolée, elle m'a adressé les plus justes reproches et elle m'a dit qu'elle avait obtenu de Dieu de venir me donner encore un avertissement, mais que c'était le dernier. Il fallait nous séparer. Si j'avais cédé la première fois, j'ai eu plus de courage cette nuit. J'ai répondu que cela était impossible et que jamais je ne m'éloignerai de vous. « Pauvre femme !» dit le marquis en lui serrant les mains avec effusion. « Pauvre femme, oui, mais aussi pauvre mère, et j'ai plus souffert de sa douleur que de mon désespoir. « Comme tu l'aimes, me disait-elle, mais lui ne t'aime donc pas, qu'il ne veut pas te permettre de racheter ta faute par cette fondation que tu lui as conseillée ?» Que répondre à ces paroles ? Je n'ai rien trouvé, et c'est alors qu'étouffant, je me suis réveillée. Mon oreiller était trempé de larmes. Ah, Arthur, quelle nuit affreuse, et que ces angoisses sont terribles. Je mourrai à la peine. Il resta longtemps sans parler, perdu dans une méditation profonde. Enfin, il releva la tête et, la regardant longuement, « Que faut-il faire ? » dit-il. « Que voulez-vous ? Je le ferai. »